Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous sommes le 5 août 1392. Le roi de France Charles VI, à la tête de son armée, se dirige vers la Bretagne pour venger l'honneur du connétable de France, Olivier de Clisson. Olivier de Clisson avait été la victime d'un assassinat. Il avait été surpris à la sortie de la cour et laissé pour mort en juin 1392. L'auteur de cette forfaiture était un certain Pierre de Cran, qui s'était vite placé sous la protection de son duc, le duc de Bretagne. Aux alentours du Mans, sur le chemin de Bretagne, donc Charles VI, tout à coup, voit sortir un homme de nulle part, que l'on dit d'apparence vile. Et il lance ce personnage au roi de France, « Roi, ne chevauche plus avant, mais retourne, car tu es trahi. » Une fois l'homme chassé, le cortège suit sa route jusqu'à ce que le fracas d'une arme lâchée par un des soldats provoque chez le roi un accès de fureur. C'était là, oui, c'était là le début de la folie de Charles VI. Quelle fut la nature de cette folie? Fut-elle d'abord réellement une folie telle que nous l'entendons aujourd'hui? Quelles en furent les conséquences pour le royaume de France, marqué par la guerre contre l'Angleterre, puisque nous sommes en pleine guerre de 100 ans? Charles VI, au fond, fut-il un roi inutile? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, à toutes ces interrogations, un jour dans l'histoire reçoit Bernard Guenet. Bernard Guenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, médiéviste, vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous avez déjà publié un livre sur Charles VI intitulé « Un roi et son historien » paru chez Diffusion de Bocard en 1999. Et vous nous offrez cette année un autre ouvrage, un livre consacré exclusivement à la folie de Charles VI paru dans la collection Pour l'Histoire des éditions Perrin. On est marqué, Bernard Guenet, dès les premières pages de votre livre, par la question de la concordance des sources. C'est un souci constant pour le médiéviste qui, on s'en rend compte, a malgré tout peu de documents à sa disposition.
Oui, quand il n'y a qu'un document, eh bien, le médiéviste est obligé de l'accepter. Le problème est que nous avons, dans ce cas-là, deux documents, deux témoignages. L'un est le témoignage bien connu de Jean Froissart, dont on va fêter cette année ou commémorer cette année le centenaire de la mort, puisqu'il est soi-disant mort en 1404 et qu'il a donc mené l'histoire du règne de Charles VI jusqu'en 1400. Et d'un autre côté, il y a un personnage beaucoup moins connu qui est le religieux de Saint-Denis, celui qu'on a appelé le religieux de Saint-Denis, dont on sait maintenant qu'il était le chantre de Saint-Denis et qu'il s'appelait Michel Pintoin. Or, les deux, Michel Pintoin a écrit l'histoire de tout le règne de Charles VI, puisque lui, il n'est mort qu'en 1420. Et par conséquent, nous avons là deux témoins de qualité exceptionnelle pour décrire les 20 premières années du règne de Charles VI. Alors, abondance de biens nuit. En ce sens que, comme ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas du tout les mêmes perspectives historiques, eh bien, l'historien, au bout d'un certain temps, finit par se demander où il en est, et c'est quelquefois bien gênant.
Alors, venons-en à ce Charles VI. Je pense pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au fait de l'histoire médiévale, qui était Charles VI? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit tableau du contexte de son arrivée au pouvoir?
Voilà, Charles VI est donc le fils de Charles V. Il est né en 1368. Son père meurt prématurément, comme beaucoup de ses rois, vers les 40-45 ans. Et par conséquent, Charles VI monte sur le trône et couronné à 12 ans en 1380. Bien entendu, il y a une minorité. Et cette minorité est assurée par les oncles du roi, c'est-à-dire les frères de Charles V. Charles V avait trois frères et un beau-frère. Ne retenons, si vous voulez, que les deux principaux qui vont jouer un rôle considérable dans cette affaire, c'est le duc de Berry et le duc de Bourgogne. Le duc de Berry, c'est Jean de Berry, et le duc de Bourgogne, c'est Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Ces deux personnages, en somme, ont dirigé la France entre 1380 et 1388. Mon Dieu, ils ont considéré les intérêts du royaume, mais aussi les leurs ne leur ont pas échappé. Et en 1388, à leur grande surprise, Charles VI, ayant 20 ans, les a remerciés, comme on remercie une femme de ménage, c'est-à-dire en leur expliquant que c'était fini. Et donc Charles VI, à 20 ans, a pris le pouvoir et il a rappelé en partie les vieux serviteurs de son père Charles V. Et par conséquent, il a repris certains éléments de la politique de Charles V. En réalité, il n'a pas fait que ça. Et parce qu'il avait un tout autre tempérament, Charles V était un roi sage qui a mené une guerre très efficace sans aller jamais en bataille, tandis que Charles VI est un roi très dynamique, qui aime la guerre, qui est presque tous les ans qui a été en guerre, et qui, par conséquent, va mener une politique extrêmement brillante, mais extrêmement coûteuse.
Nous sommes, à cette époque, en guerre contre l'Angleterre, nous sommes en pleine guerre de 100 ans.
Nous sommes en pleine guerre de 100 ans, mais nous sommes à un moment où la guerre de 100 ans s'est assoupie. Après les grands désastres du milieu du XIVe siècle, vers 1360, une paix a été signée entre la France et l'Angleterre. Bien entendu, pendant le règne de Charles V, il y a eu bien des escarmouches. Mais en gros, on peut dire que, et c'est le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas parler de la guerre de Cent Ans comme d'un tout et d'une suite de désastres depuis le milieu du XIVe jusqu'au milieu du XVe siècle. Il y a, de toute évidence, une période de pause entre la fin du règne de Charles V et les années, disons, 1405-1410, les hostilités ne reprenant qu'un peu plus tard, pour toutes les raisons que nous verrons, dans la seconde partie du règne de Charles VI. Alors, il y a eu des expéditions militaires, mais ce sont des expéditions militaires qui ne se font pas dans le royaume, qui ne nuisent pas au royaume, qui ne détruisent pas le royaume et qui n'ont rien à voir avec les désastreuses expéditions anglaises du milieu du XIVe siècle. Ceci a duré jusqu'en 1392 et pendant 4 ans, nous avons donc un roi de France qui porte beau, dont les sujets sont très heureux de voir que c'est le plus grand roi de la chrétienté.
Son état de santé est parfait.
Son état de santé est parfait, à ceci près qu'il est un peu agité, un peu nerveux, mais enfin, après tout, il y en a d'autres.
Alors, venons-en donc à ce fameux épisode, ce 5 août 1392 que j'évoquais en introduction. Que se passe-t-il réellement ?
Il se passe réellement. Si je ne retiens que les faits qui sont avérés quand on a examiné les deux principaux témoins. Il se passe que, effectivement, à la sortie du Mans, un jour où il faisait très chaud, il y a un individu en haillons qui est venu devant le roi et qui lui a dit la phrase qu'on vient de vous redire. Personne n'en a tenu compte, et comme constate Froissart, le vieux disparaît sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Ces apparitions à la cour du roi ou devant le roi de personnages inconnus qui se font les porte-paroles de Dieu, ça existe, il y en a énormément. C'est pour ça que ce n'est pas une surprise, si vous voulez. Mais enfin, bref, ce vieux disparaît, le roi continue. Froissart situe la scène dans la forêt parce que, pour un romancier médiéval, la scène étrange se situe toujours dans la forêt. Le religieux de Saint-Denis, qui n'est pas un romancier, nous dit que ça se passe à la sortie du Mans. Probablement, ça s'est passé à la sortie du Mans. Toujours est-il que, à la sortie de la forêt, nous dit Froissart, le soleil dardait plus que jamais, c'était midi, et il y a une lance qui tombe ou une épée qui tombe par terre. Oh, évidemment, si je décris la scène de Froissart, c'est beaucoup plus beau. Il y a derrière le roi deux pages. Un premier qui a un casque d'acier et le second qui est derrière le premier et qui a une lance. Le second s'endort, la lance tombe sur le casque du premier et réveille le roi. Non seulement il le réveille de ses rêveries, mais le roi tombe fou. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Le religieux de Saint-Denis, qui n'a pas d'imagination, dit simplement qu'il y a une épée qui tombe à terre et que le bruit réveille le roi. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est la scène de fureur. C'est la scène de fureur. Ça, c'est sûr, parce que tout le monde le dit, que le religieux de Saint-Denis emploie un terme académique pour dire « furor » en latin, tandis que Froissart dit bien que c'est une crise de frénésie, c'est-à-dire tout simplement une crise de folie furieuse. Et cette crise de folie furieuse fait que le roi manie son épée à droite et à gauche, que tout le monde fuit devant le roi, parce que personne ne va se mettre en position de blesser le roi.
Vous montrez le duc d'Orléans qui s'enfuit à...
Le duc d'Orléans s'enfuit, son oncle, le Froissart raconte ça d'autant plus volontiers qu'il déteste le duc d'Orléans, alors il ricane à la pensée que le duc d'Orléans a fui, et il nous montre Philippe de Bourgogne disant « Fuyez, beau neveu, fuyez !» Tout le monde s'enfuit, mais il y a quand même quatre personnes qui sont tuées. Hein, dont un...
Par la main du roi.
Par la main du roi. Et finalement, au bout d'un certain temps, le roi se fatigue, les gens se rapprochent, il est épuisé, son cheval est épuisé, il est ceinturé, il est lié sur un chariot, et il est ramené au Mans dans un état pitoyable, complètement inconscient. Dans la crise de fureur, il ne reconnaissait plus personne déjà. Et maintenant, il est complètement inconscient et on se dit que le roi va mourir.
Quand va-t-il sortir de cet état ?
Ben, il est resté deux jours comme ça. Et les deux sont d'accord. Froissart et le religieux de Saint-Denis sont d'accord. Mais le religieux de Saint-Denis en profite pour raconter une scène qui le scandalise. Le religieux de Saint-Denis, c'est un homme qui est très royaliste, qui est très partisan du roi de France, qui est conscient de la majesté du roi de France.
Vous le montrez très, très mesuré. Vous opposez d'ailleurs Froissart et le religieux de Saint-Denis. Je vous cite, vous dites « Froissart est médiocrement informé. En revanche, le religieux de Saint-Denis sait mieux ce qui s'est passé. Son talent est bien moindre. » Et en fait, c'est un petit clin d'œil à l'historiographie. Vous ajoutez « La postérité a préféré le brillant homme de lettres à l'historien sérieux, mais un peu terne. »
Oui. Cet hommage rendu au religieux de Saint-Denis, il est même rendu par Michelet. Michelet qui dit dans une dot « Je suis le religieux de Saint-Denis parce que c'est un historien sérieux. » Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après avoir déclaré qu'il suivait le religieux de Saint-Denis, il décrit la scène d'après Froissart parce que c'est beaucoup plus joli.
Donc, le roi, en fait, sort de cet état critique au bout de deux jours.
Au bout de deux jours, on attendait sa mort. Et comme c'est d'usage à la cour, quand le roi est malade, tout le monde peut l'approcher. Or, les ambassadeurs d'Angleterre tiennent à venir voir le pauvre roi dans l'état où il est. Et c'est un scandale, parce que le duc de Bourgogne dit « Comment est-ce possible de montrer à l'ennemi d'Angleterre, une chose pareille. » Et ça, vous voyez, ça démontre bien ce qu'est le religieux de Saint-Denis, très soucieux de protocole, de liturgie et de respecter la majesté royale. Au bout de deux jours, alors qu'on attendait la mort du roi, eh bien, il se rétablit. Et c'est peut-être plus encore que sa mort, c'est son rétablissement qui est le grand drame. Parce qu'il serait mort, mon Dieu, il aurait été remplacé comme roi. Mais là, il se rétablit, et à partir du moment où il est rétabli, il met un certain temps à récupérer, le pauvre homme, bien entendu, il met quelques semaines à récupérer, mais enfin, au bout de 4 ou 5 semaines, il a parfaitement récupéré, et alors que faire? Le roi était malade, mais il est en bonne santé.
Thank you.
Un jour dans l'histoire reçoit Bernard Guenet, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, auteur d'un livre consacré à la folie de Charles VI, paru aux éditions Perrin. Donc nous évoquons le sort du roi qui, après le 5 août 1392, reste deux jours dans une crise. Et c'est le début, le commencement de cette maladie, au fond, que l'on a du mal à définir. Quelle fut la nature de cette maladie? Peut-on le dire aujourd'hui?
Il y a à peu près, depuis plus de 100 ans, il y a à peu près, je pense, une thèse de médecine qui est faite sur la folie de Charles VI, très régulièrement, tous les 10 ans. Or, au point où nous en sommes, je crois que personne ne peut dire exactement, avec précision, de quelle maladie il a souffert. Alors, si je vous donne le dernier résultat des méditations des médecins, il y a une possibilité que ce soit une schizophrénie. Mais, ajoute celui qui l'identifie à une schizophrénie atypique, parce que ce n'est pas tout à fait ça. D'autres disent une psychose maniaco-dépressive. Mais s'empresse-t-il d'ajouter, je ne peux rien dire de précis, parce que de toute façon, c'est une psychose maniaco-dépressive atypique. Par conséquent, dans les schémas actuels de la psychiatrie, il n'y a pas une possibilité de donner une définition exacte de la folie de Charles VI. Alors, pourquoi? Il y a une première raison qui est évidente, c'est que nous n'avons pas sur cette maladie, nous n'avons pas de témoignage médical, aucun. Aucun médecin n'a trahi le secret de l'affaire. Ils ont eu d'autant moins de mal à ne pas trahir le secret de l'affaire, c'est qu'ils n'y ont jamais rien compris, n'est-ce pas ?
Nous reparlerons de l'impuissance des médecins.
Par conséquent, il n'y a pas de témoignage médical d'un côté, et d'autre part, les deux témoignages essentiels dont je vous parle, c'est-à-dire le religieux de Saint-Denis et Froissart n'a vu ça que de très loin. Et le religieux de Saint-Denis ne se soucie quand même pas, il a des informations un peu plus précises parce qu'il ne vit pas très loin de la cour, mais il ne se soucie pas de donner très souvent une définition clinique de la chose. Il a derrière des soucis politiques, et Froissart aussi. Par conséquent, ce sont des témoignages médicaux qui sont incertains et qui en plus sont entachés par les perspectives politiques et autres de l'un et l'autre principaux témoins. Et tous les autres témoins, au fond, ont une idée derrière la tête qui n'est pas forcément une idée médicale.
Alors comment se présente cette maladie? Est-elle continue? Est-ce qu'il y a une série de crises, de rémissions?
Si elle avait été continue, ça aurait été commode. Le roi aurait été enfermé et on aurait pris quelqu'un d'autre pour gouverner la France. Mais non. Ça a été une succession de crises et de rémissions. On a compté les crises et les rémissions. Plus on regarde les textes, plus on en trouve de crises et de rémissions. Disons que moi, j'en ai trouvé entre 50 et 55. Je ne me rappelle plus le chiffre exact.
Sur combien d'années ?
Sur 30 ans. Sur 30 ans, puisqu'il a été fou de 1392
à 1422,
à l'année de sa mort. Alors, une cinquantaine de crises et de rémissions, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comprendre que la crise, c'est d'abord un élément frénétique, c'est-à-dire une crise de folie furieuse où le roi ne tue plus les gens parce que les gens sont avertis et qu'il n'a plus une épée en main, mais où le roi casse toute la vaisselle, déchire les rideaux, hurle. Par conséquent, c'est vraiment des crises de frénésie. Cet épisode frénétique cesse et le roi entre dans une léthargie complète. Et après, troisième élément, le roi se remet, mais il se remet lentement. Et puis, un beau jour, brutalement, il se réveille et il dit, il retrouve toute sa conscience et il reprend les rênes du gouvernement. Ça, c'est ce qui se passait au début. Mais un peu plus tard, après cette crise de folie furieuse, cette crise de léthargie et cette période indécise, eh bien, les périodes ont été de plus en plus indécises et les rétablissements ont été aussi de plus en plus incertains. C'est-à-dire qu'on continue à compter des crises, mais qu'on a de plus en plus de mal, parce que le passage entre la crise et la rémission devient de moins en moins évident. Alors, pour des besoins politiques, quand on a besoin d'une signature du roi ou de lui faire une approbation quelconque à un texte important, on découvre qu'au fond, il a eu une période de rémission pendant sa crise. Et puis, à un autre moment, eh bien, il est en rémission soi-disant, mais au fond, il se comporte de façon très fâcheuse. Et alors, on peut dire que à partir de 1407-1410, crise ou rémission, il perd de plus en plus contact avec les réalités. Alors que dans les années 1390, quand il était revenu à la bonne santé, eh bien, il pouvait comprendre de quoi il s'agissait. En 1410-1415, il ne pouvait plus. Et dans les 10 dernières années de sa vie, ce brave homme continuait à être un gaillard vigoureux. Il tirait toujours de l'arc dans les fossés du château. Mais il était plus en prise ou en phase, comme on dit, avec les réalités.
Nous allons voir plus tard, bien évidemment, les conséquences, Bernard Guenet, de cette folie que nous évoquons avec vous. Vous êtes l'auteur du livre « La folie de Charles VI, roi bien-aimé » aux éditions Perrin. Alors, la description dans les chroniques de l'état du roi, dites-vous, dépend des considérations politiques. C'est assez extraordinaire de voir, au fond, qu'on ne change pas les époques, qu'aujourd'hui encore, les écrits, bien évidemment, sont le fruit d'analyses politiques, de considérations politiques et religieuses. Et chez Froissart et chez le religieux de Saint-Denis, il y a le fait politique.
Oui.
Alors, comment cela se traduit chez l'un ou chez l'autre? Quelles sont les choses que ne dit pas Froissart et qu'en revanche, le religieux de Saint-Denis prend en compte?
Si vous voulez, je donnerai un exemple. Il y a une question très importante pendant cette période des années 1390, c'est la question du schisme. Le schisme est une chose très importante. Le grand schisme d'Occident a commencé en 1378, quand Charles V, mécontent de l'élection du pape de Rome, a suscité l'élection d'un autre pape qui, lui, s'est installé à Avignon. Alors, cette installation d'un autre pape à Avignon, comment a-t-elle été jugée en 1392 ? Eh bien, elle a été jugée par tous les partisans du pape de Rome comme une punition pour le roi, alors que pour les partisans du pape d'Avignon, ça a été jugé comme quand même quelque chose. On se demandait si, après tout, Charles V n'avait pas fait là une sottise qu'il conviendrait de réparer. Et donc, toute la politique du gouvernement de Charles VI, dans les années 90, a consisté à essayer petit à petit d'écarter, de ne plus se lier de la même façon au pape d'Avignon. En 1398, voilà que le gouvernement français décide de sauter le pas et décide par conséquent de retirer son obéissance au pape d'Avignon. C'était quelque chose d'épouvantable, décider que l'Église de France pouvait vivre sans le pape. C'était une décision d'une importance capitale qui devait être approuvée par le roi. Ben, on a beau faire, le roi à ce moment-là est fou. Et alors, le religieux de Saint-Denis décrit une scène admirable où il montre que, oui, bien entendu, nous sommes en juillet 1398, le roi n'est pas bien, mais on croit savoir qu'il a eu une crise, qu'il a eu une lueur. Pendant 2 ou 3 jours, on lui a lu le texte et il l'a approuvé. Comment voulez-vous être maintenant persuadé que Charles VI a eu véritablement une rémission pendant 3 jours en juillet 1398? C'est là véritablement l'intrusion du politique, n'est-ce pas, dans le témoignage médical, si j'ose dire.
Alors, vous allez plus loin, vous dites que la notion de folie, le roi folle, était une notion impossible et on ne la trouve pas sous la plume des chroniqueurs.
Voilà. Alors là, c'est une autre question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la folie? Ah ben, c'est une grave question. Pour un certain nombre de gens, et même pour beaucoup de gens, la folie est le résultat d'une possession diabolique. Le religieux de Saint-Denis lui-même, qui est chantre de Saint-Denis, qui est un grand intellectuel, le religieux de Saint-Denis, quand il voit un boulanger de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis, qui y tombe fou, il dit « le démon s'est emparé de ce malheureux boulanger ». Bon, est-ce que vous allez oser dire, surtout avec l'optique du religieux de Saint-Denis, est-ce que vous allez oser dire que le roi a été victime d'un démon qui s'est emparé de lui ? C'est absolument impossible, parce que la majesté royale s'oppose absolument à ce qu'on vienne raconter que le roi est prisonnier du démon.
C'était un personnage sacré.
C'était un personnage sacré. Et par conséquent, cette folie de Charles VI a quand même contribué à faire évoluer les choses, n'est-ce pas ? Parce que le peuple a continué à penser que le roi pouvait être fou et possédé du démon, alors que jamais les intellectuels et l'élite intellectuelle ne pouvaient le penser. Alors, bien entendu, dans les écrits, le résultat est que Froissart, qui lui ne s'intéresse pas tellement à la majesté, Froissart lui dit carrément que le roi est un frénétique et que la cour a envoyé des offrandes royales à tous les sanctuaires où il y avait un saint qui guérissait les fous, hein, alors que le religieux de Saint-Denis constate bien entendu qu'il y a une sorte de regain de la religiosité après cette folie royale. Mais qui va-t-on visiter ? On va visiter le sanctuaire de Marie à la cathédrale de Chartres, on va visiter l'abbatiale de Saint-Denis où Saint-Denis est le patron du royaume, et par conséquent, ça n'a plus rien à voir, c'est un renforcement des lignes traditionnelles de la religion royale, et non pas cette chose pitoyable qui met en cause les frénétiques, comme le parlait populaire, et Froissart voudrait le faire croire. Et le mot frénésie n'est jamais employé par des historiens liés au royaume.
Alors on cherche la cause de cette folie, même si on ne la nomme pas ainsi. Vous citez la thèse de l'empoisonnement, notamment, avec cette Valentine Visconti, c'est bien cela ?
C'est ça. L'empoisonnement ou l'ensorcellement, ben les deux choses vont de pair. L'empoisonnement est une idée normale au XIVe siècle. Il faut absolument se protéger contre l'empoisonnement. Les grands seigneurs ont des instruments qui leur permettent de détecter, soi-disant, les poisons. Ça fait partie de la vie quotidienne du XIVe siècle. Et par conséquent, quand le roi est tombé fou, ça n'a été qu'un cri, presque tout le monde a dit, il a été empoisonné ou ensorcelé. Et alors la croyance à l'empoisonnement a cessé très vite, parce qu'on a constaté que le roi n'avait pas été empoisonné, après une petite enquête que Froissart décrit et qui est admirable, mais alors l'ensorcellement est resté beaucoup plus longtemps comme une hypothèse plausible.
J'ai appris une chose en vous lisant, j'ai appris beaucoup de choses naturellement, mais notamment le fait que les inquisiteurs, vous écrivez que les inquisiteurs ne s'intéressaient guère à la sorcellerie au XIIIe siècle. Alors qu'on a plutôt la vision d'un inquisiteur qui s'intéresse aussi à la sorcellerie.
Non, ils s'en sont. Alain Bourreau a écrit des pages très intéressantes là-dessus. Les inquisiteurs ont commencé à s'en inquiéter au XIVe siècle, à peu près vers 1330 par là, n'est-ce pas ? Ce n'était pas un grand souci pour. En effet, ce n'était pas le problème essentiel pour eux. Alors, l'ensorcellement a continué larvé comme une hypothèse qui a empoisonné l'atmosphère de la cour, et en particulier, il y avait à la cour le frère du roi, Louis d'Orléans, personnage extrêmement complexe, qui était à la fois pieux et d'une vie sexuelle débridée, qui était un maladroit, qui a eu contre lui toutes sortes d'hostilités, et ce Louis d'Orléans avait épousé Valentine Visconti, qui était la fille du seigneur de Milan. Valentine Visconti avait tout pour elle. C'était en plus une petite fille des princes français, enfin des rois de France. Valentine Visconti avait tout pour elle. Elle était jolie, elle était intelligente, elle était cultivée. Elle avait une petite cour autour d'elle, et tous les intellectuels parisiens étaient à ses pieds. Enfin, c'était un admirable petit salon. Mais Valentine Visconti avait ce tort d'être la fille du seigneur de Milan, qui, lui, n'avait aucun scrupule sur la façon de supprimer ses ennemis. Et en particulier, on ne pouvait pas empêcher les bruits de courir, parce qu'en Italie, comme chacun sait, on manie le poison et la sorcellerie de façon magistrale. Et par conséquent, la réputation du seigneur de Milan était détestable. Et par conséquent, la cour et le peuple a eu contre cette princesse étrangère l'idée qu'elle était peut-être dans cette affaire. Or, en plus, il se trouve que le roi, dans ses premières crises, et quand il n'était plus en crise, le roi a commencé à négliger la reine. Il y a eu une période où, pendant quelques années, il a négligé la reine, et qu'il a eu une passion pour sa belle-sœur. Quand on voit Isabeau de Bavière et quand on voit Valentine Visconti, vous auriez fait la même chose, n'est-ce pas ? Alors, il a, par conséquent, une passion pour sa belle-sœur, mais ça gêne beaucoup les gens. L'idée de l'ensorcellement par la belle-sœur est devenue de plus en plus intéressante, importante, et en 1395, à la troisième crise, la coupe a été pleine, et le duc d'Orléans a été obligé de prendre sa pauvre femme, et de l'installer dans les châteaux qu'il avait dans les environs de Paris, et n'a plus reparu à la cour avant l'assassinat du duc d'Orléans. Je ne dirais pas que ça gênait étrangement le duc d'Orléans, qui pouvait se satisfaire de n'importe quelle femme passant à sa portée, et par conséquent, oh mon Dieu, ça n'avait pas une énorme importance que sa femme légitime ne soit plus là.
Ceci dit donc, la maladie de Charles VI va continuer. C'est ce que nous verrons, Bernard Guenet, après une seconde pause.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. J'évoque avec Bernard Guenet la folie de Charles VI. Bernard Guenet, qui est l'auteur d'une monographie consacrée à cette folie, La folie de Charles VI, roi bien-aimé, aux éditions Perrin. Alors, Bernard Guenet, des sorciers se penchent sur le sort du roi. Ils échouent tous, les uns après les autres, et ils en paient de leur vie, les pauvres. C'est un triste sort pour eux. Et il faut replacer ce triste sort dans le contexte de la nature de la justice royale à l'époque. Vous montrez ce qu'est cette justice royale et, au fond, l'importance de cette crise politique qu'est la maladie du roi.
Oui, si vous voulez, commençons par parler des sorciers. La sorcellerie pose deux problèmes. Le premier, c'est de savoir s'il faut croire à la puissance des sorciers pour faire du mal. Bon. Alors ça, c'est un problème qui s'est posé pour le roi. A-t-il été ensorcelé ? Mais il y a un second problème, qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus important, c'est de savoir si les pratiques de la sorcellerie peuvent être utilisées pour essayer de désensorceler les gens qui avaient été ensorcelés. Or, il y a les théoriciens hésitent beaucoup pour répondre à la première question. Est-ce que les sorciers, est-ce que les démons ont une importance quelconque ? Parce qu'après tout, il suffit de dire que Dieu a autorisé les démons à cette démarche. Mais le contraire, utiliser des pratiques de sorcellerie pour guérir les gens, alors là, tout le monde est très ferme. Enfin, les intellectuels sont très fermes et le refusent. Mais si les intellectuels sont très fermes, les gens du peuple ne le sont pas, et même il y a beaucoup de nobles qui ne le sont pas. Si bien qu'on a, pendant quelques années, jusqu'en 1398, on a des nobles, des gens riches, des princes, des seigneurs, qui ont de la bonne volonté et vont ramener à la cour un certain nombre de sorciers pour qu'ils puissent guérir le roi. Et ces sorciers, ils les traitent admirablement, ils dépensent beaucoup d'argent pour les entretenir. Est-ce que les sorciers sont dupes de leur propre pouvoir ? Oui, certainement, ce sont des gens que je ne jugerai pas, mais qui en effet pensent que peut-être ils peuvent guérir le roi. Puis les seigneurs aussi pensent que ces sorciers peuvent guérir le roi. Et puis, il se trouve qu'au bout d'un certain nombre de mois, quand le seigneur a dépensé beaucoup d'argent à entretenir ces sorciers, il s'avère que les sorciers ne font rien. Alors là, la réaction, sous l'influence des intellectuels et des gens d'église, la réaction est violente, et elle est de plus en plus violente. Et en 1398, la faculté de théologie prend des mesures pour condamner très fermement toutes les pratiques qui ont été tentées jusque-là pour essayer de guérir par la sorcellerie en disant que c'était absolument inadmissible. C'est en ce sens que je dis que la maladie du roi réussit à, si vous voulez, bien distinguer une opinion vulgaire d'une opinion savante. Quant au traitement qu'on va infliger à ces malheureux, il dépend du fait que, au XIVe siècle, la justice de l'État est devenue de plus en plus ferme, de plus en plus violente, et a utilisé des procédés de plus en plus rigoureux pour effrayer, pour donner l'exemple et pour montrer comment des gens fautifs pouvaient être punis. Ça a commencé, si vous voulez, dans les années 1340, 1350, avec l'idée que la haute trahison méritait la mort. Non seulement elle méritait la mort, mais elle méritait la mort. Une simple pendaison qui était quelque chose d'assez doux et d'assez fréquent n'intervient plus. C'est vraiment l'écartèlement. On coupe la tête du monsieur, on lui coupe les membres et on pend le tronc qui reste au gibet de Montfaucon, et chacun des quatre membres est pendu à chacune des quatre portes de la ville où il a été exécuté. Ce sont des choses assez épouvantables, et je ne vous dis pas encore pire. Mais précisément, à la fin du XIVe siècle, ces techniques sont appliquées, et cette cruauté judiciaire est appliqué de façon très rigoureuse, si bien que de tous les sorciers qui sont intervenus et qui ont essayé de guérir le roi, et il n'y en a pas un seul à avoir échappé. Tous sont morts, et sont morts dans des conditions atroces.
Je reviens un peu sur l'élite. Peut-on dire que cette élite est au fait de la réalité de la nature et des sciences, même si bien sûr elle voit dans certains phénomènes naturels le doigt de Dieu ?
Il faut bien juger le XIVe siècle. Ce n'est pas simplement le déclin du Moyen-Âge, c'est une période où la science, où la réflexion fait des progrès considérables. À ce moment-là, la science des étoiles et des astres, l'astrologie fait de très grands progrès, et toutes les sciences de la nature font de très grands progrès.
On programme les éclipses.
On constate que le religieux de Saint-Denis est obligé de constater qu'une éclipse avait été prévue, et c'est passé exactement au moment qui avait été prévu, si bien que les savants eux-mêmes commencent à se poser des problèmes. L'astrologie, oui, c'est une science qui fait des progrès, ils se demandent, et ils se demandent si après tout l'astrologie, c'est-à-dire la science qui met en rapport le mouvement des astres et le destin humain, après tout, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans ? On se pose de véritables questions. Et donc, c'est dans une atmosphère de progrès scientifique que tout cela se passe. Et au fond, le XIVe siècle réagit comme on l'a fait plus tard, c'est-à-dire que ça n'empêche pas les gens de croire en Dieu, c'est simplement que Dieu permet un certain nombre de choses de se passer, en particulier si les mouvements des astres sont commandés par lui, mais comme il a du boulot par ailleurs, eh bien, le mouvement des astres se passe finalement comme il l'a décidé une fois pour tout.
Alors, autre progrès dans la science, les questions médicales. Quel était l'état du monde médical au XIVe siècle en France ? On s'en référait toujours à Hippocrate, à Galien ?
Alors, la médecine, la faculté de médecine de Paris est une faculté très honorable, très estimable, qui a fait de très gros progrès, comme l'a démontré Daniel Jacquard, et au XIIIe et au XIVe siècle, ce sont des gens qui savent la théorie, ils savent la théorie admirablement, et en effet, cette théorie, c'est au fond la théorie qui a été fixée par Hippocrate, Galien et quelques autres il y a fort longtemps. Ce sont donc des savants, et en même temps, ces savants qui connaissent les textes, qui étudient les textes médicaux comme on étudie un texte grammatical ou un texte littéraire ou un texte philosophique, ces savants ont en même temps le souci de l'expérience pratique et ils savent très bien qu'ils sont là pour guérir des malades. Et la faculté de médecine de Paris s'est acquis une gloire considérable et une réputation considérable au moment de la peste noire. La peste noire en 1348-1350, qui a quand même fait disparaître un tiers de la population européenne, ce qui est quand même un phénomène auprès duquel nos petites ponctions humaines ne représentent pas grand-chose. Hein. La peste noire a été observée par les maîtres de la faculté de médecine de Paris qui ont essayé de l'expliquer et qui ont essayé surtout de la soigner. Par conséquent, les maîtres de Paris sont des savants qui en même temps savent très bien ce qu'est l'expérience et ce qu'est la maladie et ce qu'est l'épidémie et qui essayent, dans la mesure de leurs moyens, de lutter contre.
Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous présentez tout le débat qui existe entre d'une part le physicus et d'autre part le medicus. Que sont le physicus et le medicus ?
Eh bien, vous voyez bien les termes anglais à l'heure actuelle, n'est-ce pas, qui subsistent et qui montrent encore la différence entre les deux. La médecine est pratiquée par deux sortes de personnages. La médecine est pratiquée par un physicus, qui est donc un personnage savant et gradé, qui est sorti, qui a fait ses études, et par un medicus qui est un homme de la pratique. Un homme de la pratique qui peut être quelquefois un modeste artisan qui aurait eu acquis quelques connaissances médicales, la pratique du rebouteux, si vous voulez, des choses comme ça. Il y a la médecine des pauvres qui est faite par le medicus qui, lui, ne va pas très haut dans la connaissance théorique. Et puis, il y a le physicus qui, lui, soigne les riches parce qu'il demande beaucoup d'argent. Et que, évidemment, ce problème de l'argent salit un peu la profession, si vous voulez, parce qu'on estime quand même que ces gens-là finissent par demander trop. Et il y a un aspect collatéral de la folie de Charles VI, c'est que le religieux de Saint-Denis et Froissart sont d'accord pour dire « Ah, ces médecins, quels salauds, qu'est-ce qu'ils s'enrichissent ?» et avec la maladie du roi, parce qu'ils ont été payés très cher.
Alors qu'ils seront impuissants, tout comme les sorciers.
Alors qu'ils seront impuissants, tout comme les sorciers. En 1395, le premier physicien du roi est chassé de la cour pour impuissance. Et quelques années plus tard, vers 1400, on a encore les princes énervés, ont une fois de plus demandé aux médecins d'expliquer, oui ou non, ce qu'a le roi. Les médecins ont discuté. Ils ont dit « Mais nous n'en savons rien. Est-ce que ce sont des causes internes ou est-ce que ce sont des causes externes ?» Tout le problème était là. Ils n'ont jamais rien pu dire de plus. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, le médecin, aux applaudissements du théologien, a été un peu mis de côté. Et on n'a plus demandé au médecin que, si vous voulez, de donner au roi des soins d'hygiène, parce que c'était la seule chose, au moment où on en était persuadé, que le roi était fou, qu'il était définitivement fou, que jamais on ne guérirait. La seule chose qu'on pouvait demander, c'est au fond qu'il soit traité correctement et que l'hygiène soit respectée.
Prenons le cours de notre émission. Je reçois Bernard Guenet qui évoque pour nous la folie de Charles VI. Il l'a évoqué dans un livre qui vient de sortir dans la collection Pour l'Histoire aux éditions Perrin. Alors Bernard Guenet, il y a un échec des sorciers, il y a une impuissance des médecins. Dès lors, on n'a plus qu'à s'en remettre à Dieu.
Eh oui, dès le départ, en somme, dès 1392, on avait fait l'hypothèse qu'il avait été ensorcelé, on avait fait appel au médecin et on avait commencé les prières pour implorer Dieu. Mais petit à petit, les choses se sont décantées, les sorciers et les médecins ont été mis de côté, il ne restait plus que les théologiens. Et donc, une autre conséquence de la folie de Charles VI, c'est que la théologie et l'Église a pris une énorme importance. Précisons les dates. Dès 1392, l'Église a pratiquement inventé à ce moment-là ce que j'ai appelé des processions spéciales, c'est-à-dire qu'en dehors de toutes les processions qui avaient été fixées par la liturgie avait aussi retenu le cas où on pourrait, pour une cause précise, faire une procession supplémentaire. Or, l'atmosphère était mûre, et en 1392, 1393, avec Gerson en particulier, on a commencé à faire des processions au cours desquelles le peuple et le clergé a demandé à Dieu la guérison du roi.
Il y a une véritable piété populaire.
Alors, c'était un pari à prendre que de convoquer le peuple à ces processions, parce que le clergé pouvait organiser des processions et le peuple pouvait ne pas venir. Or, ce qui est curieux, ce qui n'était pas forcé, ce qui n'était pas joué d'avance, c'est que le peuple a révélé la passion qu'il avait et le grand amour qu'il avait pour le roi, et par conséquent qu'il est venu en foule à ces processions qui ont donc renforcé la royauté française. Et il y a eu entre 1393 et 1398 à peu près quelques années d'une ferveur populaire extraordinaire accompagnant la ferveur royale qui, en effet, selon les procédés les plus classiques, allait aussi sur les tombes saintes, allait aussi prier Notre-Dame, allait prier Saint-Denis dans l'abbatiale de Saint-Denis. Et alors, cette ferveur populaire a entraîné quelques années qui me semblent très importantes dans la construction de l'État français, de la royauté française, de la royauté moderne, parce que c'est une période où un certain nombre de traits se sont fixés définitivement. Si vous voulez, prenons deux conséquences qui me semblent importantes de cette explosion religieuse. Les Juifs, qui avaient été chassés une première fois de France au début du XIVe siècle, que le roi avait rappelé vers 1359, où il y en avait très peu qui s'étaient réinstallés dans le royaume, mais enfin il y avait quand même quelques dizaines de maisons juives dans un petit ghetto à Paris. Ces Juifs ont été définitivement chassés en 1393, conséquence directe de cette explosion religieuse, au grand applaudissement, bien entendu, du religieux de Saint-Denis et du populaire qui avait déjà quelques années plus tôt pillé ce quartier juif protégé uniquement par un prévôt de Paris qui avait une réputation d'être plutôt sous la soumission du diable. Et puis alors, 1397-1398, un autre phénomène, c'est la législation prise contre le blasphème. Saint-Louis avait légiféré contre les blasphémateurs parce qu'il trouvait scandaleux de blasphémer le nom de Dieu. Et par conséquent, il y a eu tout au long du XIVe siècle une législation contre les blasphémateurs qui est devenue d'ailleurs, comme pour tout le reste de la justice que nous avons vu tout à l'heure, qui est devenue de plus en plus violente. Alors, quand il était pris à blasphémer la première fois, on lui coupait un bout de lèvre. Quand il était pris la seconde fois, on lui coupait toute la lèvre supérieure. Quand il était pris une troisième fois, toute la lèvre inférieure. Et quand il est pris une quatrième fois, on lui coupait la langue pour lui permettre de ne plus dire de blasphème. C'est une chose horrible, si vous voulez. Heureusement qu'on n'a jamais pu trouver de traces de l'application de ces mesures prises en 1398 contre le blasphème, et que Gerson, le grand Gerson, disait quelques années plus tard « Mon Dieu, c'est pas la peine de prévoir des choses si épouvantables contre le blasphème puisqu'on ne peut pas les appliquer. Alors disons des choses plus simples, appliquons-les. » en prenant des mesures contre le blasphème, mais raisonnables.
Alors cette ferveur populaire, vous dites qu'elle n'est pas récompensée, bien évidemment, parce que le roi reste tel qu'il est.
Elle n'est pas récompensée parce que tout le monde est bien obligé de constater, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, que le roi n'est toujours pas guéri, que les choses s'aggravent.
Alors, se pose la question de l'utilité du roi. Est-ce que Charles VI fut un roi inutile ou au contraire utile ?
Alors, c'est le problème qui a agité, qui agite aujourd'hui encore, si vous voulez, l'érudition historique. Pour certaines personnes, pour certains mauvais esprits, au XIVe, au XVe siècle, il n'y a pas doute, Charles VI est un roi inutile. Mais ça, pour le dire, il y a quelques soudards, il y a quelques personnes très hostiles au roi de France et à la royauté. Pour les autres, eh bien, on est obligé de constater que toutes les sanctions qui étaient prises ailleurs, dans tout le reste de l'Occident, contre les rois inutiles, n'ont jamais été prises contre le roi de France. Et par conséquent, nous sommes dans ce paradoxe que nous avons un roi qui est inutile et qui pourtant est indispensable.
C'est ce que vous appelez l'exception française ?
C'est l'exception française. Alors on peut évidemment se demander pourquoi cette exception. Disons, si vous voulez, qu'il y a d'abord une question de fait. C'est que personne, il n'y avait pas de mesure prévue en France pour remplacer un roi qui était malade à temps partiel. Hein ? Il n'y avait rien de prévu. Hein ? C'était un intermittent de la politique, mais on ne pouvait rien faire contre lui. Alors, on ne pouvait rien prévoir, et comme au début, il a repris connaissance et qu'il y avait après la crise la rémission, mon Dieu, on ne disait plus rien, de fait. Mais qu'est-ce qui aurait pu prendre une décision et déposer le roi ? Le pape, il était déconsidéré, il y avait eu la soustraction d'obédience. Le frère du roi aurait normalement été capable de prendre le pouvoir, mais c'était un maladroit, et toute l'opinion était contre lui, et préférait son cousin Germain, le duc de Bourgogne, qui était le fils de Philippe le Hardi, et qui lui prétendait en effet gouverner, alors qu'il n'avait aucun titre à cela. Par conséquent, si vous voulez, il y a des questions de fait, on ne savait pas comment résoudre le problème. Et puis il y a une question idéologique, c'est que le roi de France était sacré, et qu'à un roi sacré, on ne peut rien faire. Et en plus, si vous voulez, il y a le fait que les sujets du roi de France l'ont toujours considéré comme une sorte de totem dont la seule présence était une garantie de sécurité et de sauvegarde pour l'ensemble du royaume.
Vous dites qu'il y a la couronne, la majesté, la dignité royale. Nous arrivons, Bernard Guenet, dans les dernières minutes de notre émission. Le roi, malgré tout, reste très aimé et c'est pour cette raison qu'il devient Charles VI, le bien-aimé. L'expression est postérieure. Vous dites qu'elle est d'un certain Pierre de Fénin.
Oui, elle était, en tout cas...
Postérieure à sa mort, pardon.
Le premier témoignage est postérieur à sa mort. Ce sont des années 1430, si vous voulez. Étienne Pasquier, qui est un grand historien de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, avait une théorie. Il disait que les prénoms des rois de France, jusqu'au XIVe siècle, avaient été donnés par le peuple. Pépin le Bref, Charles le Chauve, Louis le Gros, etc. Et qu'à partir du XIVe siècle, ça a été un prénom donné par la cour, en somme, directement. Mais dans le cas de Charles VI, on est bien obligé de reconnaître que ce n'est pas la cour qui a décidé qu'il s'appellerait le bien-aimé, que c'est une sorte de surgissement populaire, en effet, dans un milieu bourguignon. C'est-à-dire les partisans du duc de Bourgogne, parce que, alors là, évidemment, il faudrait expliquer aux auditeurs que la seconde phase désastreuse de la guerre de Cent Ans s'est terminée par la défaite d'Azincourt et quelques années plus tard par la paix de Troyes, par le traité de Troyes, où, au fond, le roi de France a déshérité le dauphin Charles, le futur Charles VII, et a marié sa fille avec le roi d'Angleterre Henri V, et Henri V est devenu le roi de France et d'Angleterre avec la bénédiction du duc de Bourgogne. Par conséquent, le duc de Bourgogne a admis cette chose, et le roi ayant reconnu le traité de Troyes, ayant avalisé le traité de Troyes, bien entendu, les Bourguignons n'ont eu aucune difficulté à dire Charles le bien-aimé. Les Valois ont eu beaucoup plus de mal, parce que les Valois, bien entendu, ça ne passait pas, cette reconnaissance du traité de Troyes par le roi Charles VI. Mais enfin, vers 1450, ils ont déclaré qu'au fond, le peuple pleurait à l'enterrement de Charles VI. Eh bien, ça prouve que c'était les premiers résistants, n'est-ce pas, qui pleuraient contre, par hostilité, à Henri V et à Henri VI, ce qui n'était probablement pas le cas. Et le surnom de Charles le Bien-Aimé lui est resté jusqu'à ce que Louis XV, en 1734, après la maladie qu'il a eue à Metz, Louis XV se fasse appeler Louis le Bien-Aimé. Alors je suppose qu'à ce moment-là, on n'a pas eu envie de rappeler que l'autre roi de France qui s'était appelé le Bien-Aimé, ça avait été le malheureux Charles fou. Charles VI.
Eh bien, Bernard Guenet, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La folie de Charles VI, roi bien-aimé, paru dans la collection Pour l'histoire aux éditions Perrin. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs une prochaine fois. Merci et à bientôt.